Comme l'écrivait récemment la blogueuse Dominique Charron sur le blog Peuple Visible, nous semblons parfois vivre dans les mondes parallèles quand il est question des Autochtones au Canada. Alors aujourd'hui, à Point commun, nous avons décidé d'aller à la rencontre des Premières Nations, de mieux connaître la réalité de ce peuple, de ces personnes, bref, de ces communautés avec qui nous partageons bien plus qu'un territoire. Afin de parler des grands dossiers, avant de nous pencher sur des questions ou des organismes plus spécialisés, on joint au téléphone Mélissa Molène-Dupuis du mouvement Idle No More Québec. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Donc, j'ai présenté en fait le Idle No More Québec comme un mouvement. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut bien le décrire?
Oui, c'est exactement ce que c'est. C'est un mouvement de citoyens autochtones et non-autochtones qui, dans le fond, se mobilisent ensemble depuis 2012. On n'est pas un organisme, on n'est pas un parti politique, on est vraiment une mouvance. C'est très organique, mais ça permet beaucoup de liberté, justement, pour aller toucher différents dossiers des Premières Nations qui, malheureusement, ça fait des années qu'on essaie d'amener de l'attention, mais depuis quelques années, grâce à cette mouvance en collectivité-là, ben, on commence à avoir de l'attention sur des enjeux autochtones importants pour nous.
Rappelez-nous les circonstances de la création de I Don't Know More.
I Don't Know More, ça a commencé en 2012 justement, et c'est le nom du mouvement qui est pan-canadien et même maintenant pan-amérique. C'est venu d'un ce qu'on appelle un teach-in, c'est-à-dire un atelier d'éducation populaire qui avait été fait pour parler justement des lois mammouths qui avaient été passées par qui étaient en en lieu d'être passé par le gouvernement Harper. Et le nom du premier teach-in, c'était Idle No More. Puis c'était pour parler justement de protection de l'eau, du fait que les lois mammouths allaient enlever des protections importantes à l'eau au Canada et que ça allait détruire une des lois de protection de l'eau les plus vieilles. C'est une des plus vieilles lois qui existait au Canada pour protéger l'eau et l'environnement. Donc, c'est sorti de là, mais ça l'a amené tellement d'autres enjeux avec le temps que le mouvement a pris une ampleur incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant 2012 à 2013, on a vu des mobilisations énormes, que ce soit en lien avec le fait que le gouvernement Harper n'écoutait pas les leaders autochtones ou qu'on enlève des protections à l'eau, ou qu'on veut faire passer des pipelines sur des territoires autochtones, ou le fait qu'on parle pas des enjeux des femmes assassinées disparues, les pensionnats indiens. Disons que ça a crevé un abcès qui était depuis trop longtemps en train de suppurer à l'intérieur du Canada.
C'est vraiment une belle image, effectivement. Il existait déjà des associations, des organismes de défense de droits des gens des Premières Nations. Pourquoi créer justement ce nouveau mouvement-là? Est-ce que ça rassemble aussi tous les organismes?
Bien, les organismes participent. Je veux dire, moi, je suis en tant que femme autochtone, j'ai travaillé dans plusieurs organismes à Montréal ou au Québec qui travaillaient pour les droits des personnes autochtones. J'ai travaillé pour Femmes autochtones, j'ai travaillé à la Wapikoni. Je me suis beaucoup mobilisée dans différents organismes. Mais la raison pour une mouvance, c'est-à-dire un mouvement, c'est justement ce côté organique qui n'est pas dans une organisation, qui ne nécessite pas de recherche de fonds, qui est vraiment très ouvert et très libre pour pouvoir prendre parole en tant que citoyen. Et c'était quelque chose qui manquait encore parce que les organismes travaillent énormément sur des situations distinctes. Comme on s'entend que Femmes autochtones du Québec travaillent sur les enjeux des femmes autochtones au Québec. La PNQL va travailler justement à la relation entre le gouvernement, soit fédéral ou provincial, et les Premières Nations. Mais il y a plein de... Il y a des angles morts qui n'étaient jamais touchés. Et le temps qui est demandé pour pouvoir organiser tout ça, l'énergie qui est demandée aux organismes, ça faisait beaucoup. Alors qu'une mobilisation de personnes se fait très rapidement. Ça vient justement des désirs des gens de pouvoir s'exprimer sur des enjeux. Donc, on a pu mobiliser rapidement sur des enjeux et avec des très larges échelles. Puis ça s'est fait sur des décisions, je dis beaucoup organiques, mais c'est ça, c'est des gens qui, ensemble, ont la même idée, sortent dans la rue et disent, écoutez, il faut que vous en parliez, pas seulement derrière les murs ou aux tables de négociation, mais aussi, genre, sur la place publique, il faut en parler.
Et dans les médias,
Et dans les médias, si je me trompe pas. Les médias, on n'avait pas accès à ça en tant que communauté autochtone, parce que les seuls moments où on voyait des caméras, c'était tout le temps quand on bloquait des rues ou bloquait des ponts. Mais grâce à l'avenue des médias sociaux et à l'utilisation que les communautés autochtones en font à travers le Canada, je veux dire, quand tu es communauté éloignée, Facebook, Twitter, c'est souvent la manière que tu as de prendre des nouvelles de ta famille.
Oui.
Mais grâce aux médias sociaux, on a pu s'organiser, on a pu amener de l'avant justement des images qui venaient des manifestations ou des mobilisations ou bien parler des enjeux. Je veux dire, le nombre de posters de femmes ou d'affiches de femmes assassinées ou de femmes autochtones qui disparaissaient pour pouvoir faire une recherche, c'était pas dans les médias, c'était dans les médias sociaux qu'on pouvait faire ça.
Exact, je
Et
crois. Oui, allez-y.
excusez-moi, je parle
Ben.
beaucoup, mais c'est ça, ça c'est ce que, c'était un des pouvoirs que les médias sociaux ont permis, c'était d'amener de l'ampleur à la mouvance autochtone. Je dis, non, si on avait eu Facebook pendant la crise d'Oka, je pense que la crise d'Oka aurait pu prendre encore plus d'ampleur et ça aurait été vu d'une autre manière aussi.
Oui, justement, bon, c'est cette approche globale-là aussi, et d'aller chercher les médias sociaux pour faire connaître davantage d'enjeux. On a entre autres vu émerger quand même plusieurs mots-clics en lien vraiment avec des problématiques spécifiques. Donc, c'est cette présence-là dans les médias, quelle influence vous voyez sur la compréhension de la population qu'elle a des enjeux?
Mais je pense que ça permet de ne pas simplifier la question. Ça le permet aussi de dégénéraliser. Parce on était les Indiens dans le temps, je me rappelle. On était les Indiens en 1990. Et quand on a commencé la mobilisation, je pense juste à Idle No More au Québec, nous, on avait l'enjeu que la langue qui est utilisée au Québec en majorité pour beaucoup d'Autochtones, c'est le français. Et ça nous isolait de la mobilisation anglophone. Donc, on a créé Idle No More au Québec. Mais ça nous a permis justement d'enlever l'isolement qu'on avait avec le reste de la mouvance au Canada. Mais ça a aussi permis qu'on fasse connaître, en dehors des Indiens, entre parenthèses, au début, je disais, tu sais, c'est bizarre, mais on habite au Québec ensemble depuis 400 ans, puis il n'y a personne qui peut me nommer les 11 nations du Québec. On peut se rappeler 12 mois dans l'année, mais on ne peut pas se rappeler des noms des 11 nations. Fait que c'est parti de Indien en 90, à autochtone en 2012, puis maintenant, j'ai beaucoup plus, souvent des interventions avec des journalistes ou avec des personnes politiques qui maintenant font la distinction des nations. Ils savent que je suis nous, ils savent qu'elle est Mohawk, mais ils savent que c'est pas la même chose du tout, là. On n'est pas un bloc monolithique de citoyens. Fait que ça l'a amené ça. Ça nous a permis de nous définir et d'informer les gens aussi, d'amener d'approfondir des ressources parce que oui, on pouvait parler dans des entrevues, soit radio, soit télé, mais l'information s'arrêtait là autrefois. Là,
Oui.
maintenant, grâce au mot-clic, les gens peuvent aller rechercher de l'information, approfondir leurs connaissances sur des enjeux comme les femmes autochtones, comme les pensionnats. Je veux dire, c'est toutes des choses qui nous permettent maintenant d'aller chercher de l'information puis de ne pas être uniquement en surface quand on connaît les enjeux autochtones.
Justement, vous avez nommé deux enjeux principaux, entre autres, du point de vue fédéral, qui sont les demandes d'enquête sur la disparition des femmes autochtones, pour donner suite au dernier rapport de la Commission Vérité et Réconciliation sur les conséquences des pensionnats. Ce sont deux gros dossiers que vous menez quand même de front.
Oui, bien, la Commission Vérité et Réconciliation a eu un impact incroyable pour la relation entre autochtones et non-autochtones au Canada. Les gens ont finalement pu voir l'histoire des Premières Nations, ce qui était complètement ignoré. Je veux dire, même moi, en tant que jeune autochtone, quand j'avais 16 ans, il a fallu que je cherche moi-même mon histoire parce qu'on n'apparaissait pas avant 1534. Et avec je dirais la prise publique qu'il y a eu de la question des pensionnats, les gens ont fait quoi? Ça s'est passé dans mon Canada, c'est arrivé, c'est une histoire qu'on ne raconte pas. Comment ils ont pu faire ça en notre nom, en tant que citoyen canadien? Et surtout, ça l'a aussi aidé à dire, mon Dieu, je pense que si nous, en tant que Québécois, on avait passé à travers les pensionnats, puis on pense aux orphelins du Duplessis, c'est une histoire qui est quand même assez parallèle. Nous aussi, on serait sortis de poquet de là en tant que société. Puis ça nous a permis d'expliquer aussi que les cas de violence, les cas de consommation, de surconsommation d'alcool ou de drogue, ça vient pas de notre culture, ça vient pas de notre identité culturelle ou de qui on est, ça vient justement de cette blessure qui a été faite à l'ensemble de la population autochtone au Canada.
Oui, c'est
Donc, ça
un
a été un gros
traumatisme
coup.
collectif.
Oui, et le cas des femmes assassinées disparues, si on veut une commission publique nationale, c'est pour permettre justement encore d'amener dans l'œil public ces questions-là, pour pas qu'on soit encore en train de se guérir entre nous seulement. C'est pour que cette relation entre le Canada et les Autochtones se guérisse aussi. Je veux dire, on peut pas uniquement aller, comme on dit, lécher nos blessures dans un coin pour pas déranger. Il faut que le monde comprenne que c'est venu d'une décision du gouvernement. C'est une discrimination institutionnelle qui a été faite sur les peuples autochtones. Mais maintenant, comment est-ce qu'un citoyen canadien peut aider un citoyen autochtone à guérir, à passer? Bien, c'est en partageant justement ce moment d'histoire-là puis en se comprenant l'un l'autre.
Justement, c'est comment on peut devenir des alliés? C'est dans l'éducation, dans le dialogue, dans une meilleure connaissance de ces enjeux-là, de l'histoire aussi des Premières Nations. Comment on peut se former?
Bien, nous, avec I Don't Know More, ça a vraiment été beaucoup sur la participation citoyenne, mais aussi beaucoup sur l'éducation, les teach-ins, puis les round dance. Ça a été deux outils de mobilisation qui ont été énormes pendant 2012-2013, principalement parce que, oui, on veut que vous luttiez avec nous, mais il faut quand même que ça parte d'une lutte commune informée. Mm-hmm. Donc, le teach-in, l'atelier d'éducation populaire, ça a été déjà... se raconter l'un à l'autre. Et le round dance, la danse en rond qu'on faisait soit dans les rues ou dans les centres d'achat, c'est qu'on faisait des actions, des interventions dans le milieu public, non violent, avec une activité qui a été illégale. La danse traditionnelle autochtone a été illégale et beaucoup de Canadiens ne le savent pas. Mais de ramener symboliquement une danse qui a été déclarée illégale par le gouvernement canadien il y a environ 100 ans, et de ramener ça 100 ans plus tard et de dire c'est comme ça qu'on se mobilise, c'est que vous n'avez pas détruit ni notre identité, ni notre culture, et que maintenant on s'en sert pour s'imposer. Mais c'est pas pour s'imposer de façon violente, c'est pour s'imposer
c'est pour
de
s'affirmer.
Façon affirmée, mais riche, puis culturelle, et positive surtout.
Surtout. Mélissa Molin-Dupuis, merci beaucoup du mouvement Idle No More Québec. On va mettre un lien sur la page de l'émission pour les gens qui souhaitent avoir plus d'informations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ces enjeux que vous menez de front.
Bien, merci pour votre écoute.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée.